Getting to know you. Une conversation et zéro fil rouge. On va le préciser quand même pour les gens qui nous écoutent 30 ans après.
Parce qu'il y aura encore des gens qui nous écouteront 30 ans après.
Écoute, il y a encore des gens qui écoutent alors qu'on sort un épisode par an. Donc moi j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein, c'est pas irréaliste non plus. On est en plein dans, malheureusement, hein, le début d'une pandémie, donc d'une épidémie mondiale. D'une grippe bien vénère qui se transmet assez facilement, qui se transmet assez rapidement et qui vient à bout d'à peu près une à deux personnes sur 100, plus des personnes plus âgées qui ont déjà des problèmes respiratoires ou ce genre de choses, mais les cas de gens, bah, par exemple de notre âge, sont pas non plus ultra exceptionnels. Ils sont rares, mais il y en a. Je sais pas si toi tu suis un petit peu les statistiques en ce moment, si tu regardes un peu les infos,
non.
Si au contraire tu te mures comme j'ai pu le faire pendant toute une semaine.
Je ne fais pas cela.
C'est une très bonne idée. J'y vais très, très peu souvent. Alors, pour te dire, ce que je fais maintenant, mon petit régime info, c'est que j'y vais pas. Et pendant que j'enregistre, pendant que je bosse sur autre chose, je stresse, regarde. Parfois, j'ouvre Twitter comme un con, ou j'ouvre genre la RTS, donc la radio-télévision suisse, son site web par erreur, un truc comme ça. Et je tombe devant, je fais ah non, et je referme. mais en gros, c'est un vieux stress pendant que je bosse, pendant que j'enregistre parfois certains podcasts, de manière complètement dilettante. J'ouvre un onglet, je vois ça, je fais non, putain non. Et je referme derrière. La seule chose que je me suis autorisé à faire pour avoir genre une info de où on en est au sens global, c'est la page Wikipédia qui est dédiée au truc spécifiquement dans notre pays, c'est-à-dire la Suisse, parce qu'en fait il te montre justement la courbe de progression.
Pour
que j'ai une vague idée de où on en est et donc que je fasse un peu abstraction dans ma tête et que je me dise bon, on est à peu près à ce point-là de l'emmerde. Et pour l'instant, voilà, ça reste très emmerdant, n'est-ce pas? Ça reste une grande source d'emmerdement et surtout, enfin, c'est l'idée de rester confiné chez soi qui est au niveau moral. J'avais pas réalisé à quel point sortir, alors que je suis quelqu'un qui peut être assez casanier, est essentiel.
Je t'avouerais que moi, qui suis très habituée à ne pas sortir de chez moi, surtout ces derniers mois, depuis que je suis sortie de l'hôpital, ça m'a pas changé grand-chose.
Ouais.
Je sors toujours pour aller voir mes médecins.
Ouais.
Enfin, mes médecins, ma physio.
Mm-hmm.
Et je devrais, en principe, d'après ma physio, je devrais sortir pour au moins 45 minutes par jour pour marcher, mais je ne le fais pas. Parce que j'attendais les 14 jours, voilà.
Ah ouais.
Là, je pense que si la semaine prochaine il fait beau, je vais peut-être essayer d'aller marcher. Parce que c'est vrai que j'avais, là, quand je marche, ça me fait mal, quoi. Au bout de 10 minutes, j'ai mal aux jambes, donc c'est pas le top.
Ouais. Mais la dernière fois qu'on avait enregistré un épisode de ce podcast, on t'avait visité à l'hôpital avec Antoine et tu te déplaçais en chaise roulante. principalement, même si tu avais commencé déjà à retrouver un petit peu de motricité avec je me souviens plus du nom maintenant,
Volator.
Voilà, et de la rééduque, j'imagine, en parallèle. Si tu veux le partager, si tu veux en parler, comment ça se passe maintenant? Là, tu me dis justement, je marche, etc.
Ben alors, je remarche, pardon, je remarche et j'ai effectivement retrouvé quasiment toute ma motricité. Niveau équilibre, c'est pas trop ça, mais j'ai retrouvé toute ma motricité. Par contre, je sais pas si je t'avais parlé du fait que les indemnités journalières allaient s'arrêter.
Je me souviens plus, pour être c'est tellement passé de trucs ces derniers.
Alors
temps.
En gros, avant ça, je faisais mes études et je touchais de la part de l'AI, qui est l'assurance invalidité. C'est un truc en Suisse qu'on a par rapport au handicap.
C'est un des deux grands filets de sécurité.
Je touchais des indemnités journalières pour continuer mes études, qui devaient se prolonger jusqu'à la fin de mes études. Mais vu que là, j'avais un arrêt de 6 mois, ils ont coupé ça et ils ont dû relancer une nouvelle demande de dossier.
Un arrêt de 6 mois des études, en fait. Ils t'interrompaient ça te met un petit peu dans la situation vicieuse où, les indemnités, je peux pas reprendre les études non plus.
Voilà, et parce que du coup, là, j'étais au service social. Enfin, et je suis toujours au service social. Tu sais comment l'expliquer un peu ce que c'est?
On a des termes un petit peu différents, je crois, dans les différents coins de Suisse. C'est ce qu'à Genève on appelle de manière parabolique presque les mesures cantonales, c'est-à-dire en gros le dernier filet de sécurité qui dépend pour le coup en termes de ressources du canton, c'est-à-dire pour nos amis français du département, qui te permet de survivre dans un cas vraiment extrême où tu n'as pas d'autre recours.
Voilà, c'est exactement ça. Par rapport à ça, on m'a expliqué avec ma psychiatre, mon infirmière psychiatrique, que je vois toutes les deux au CNP, le centre neuchâtelois de psychiatrie, et l'assistante sociale du CNP, elles m'ont toutes expliqué que l'AI était très réticente à me réaccorder des indemnités journalières parce que mes études allaient durer trop longtemps. Et donc, j'ai dû décider d'arrêter mes études.
C'est nul comme justification dans le sens où... qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi? C'est la vraie question.
Voilà, c'est ça. C'est le truc qui craint, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. En même temps, je t'avouerais qu'il me restait 6 ans d'études. Là, j'ai 28 ans. 6 ans encore d'études, ça fait long.
Tu serais allé vers du coup un doctorat?
Non, pas du tout. J'aurais juste fait un complément HEP et ensuite un master à la HEP.
D'accord. Ce que je trouve un petit peu... c'est la question du modèle de société, entre guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes à quelqu'un qui est dans ta situation et qui veut avoir une vie intéressante et qui par la force des choses simplement se retrouve en position de grandes difficultés d'un point de vue économique, quoi. Encore une fois, la situation actuelle le montre de manière encore plus explicite, mais rien qu'en prenant le cas de figure dans lequel tu es, on voit à quel point le modèle de société actuel mène à des injustices qui sont énormes. Parce que, t'as plein de trucs, après t'as plein de cas plus grands, plus petits, qui illustrent également. Enfin, c'est absolument dingue. Du coup, toi, comment est-ce que tu envisages la suite, bah, potentiellement niveau boulot, ou enfin, est-ce que tu as mis un terme temporaire à tes études, ou est-ce que tu veux continuer après?
Non, c'est un arrêt définitif. C'est un abandon. Mais je pense que je pourrais faire quelque chose de potentiellement intéressant. Après, je sais pas quoi. Il faudrait que je voie des orientateurs ou des trucs du genre, que je fasse des tests. Parce que je sais pas ce que je peux faire avec ce que j'ai en poche.
Donc là, tu te concentres sur le fait d'aller mieux, en fait, en vérité.
Là, en vrai, pour le moment, je suis surtout dans une phase où j'essaie de me reconstruire, parce que mine de rien, ça a été quand même assez traumatisant, l'hôpital et tout ça.
Oui, bah, on en avait parlé la dernière fois, c'était... Il y a des aspects qui étaient absolument horribles, quoi, carrément.
Ouais, et du coup, ben, ça, je pense que ça va me prendre un peu de temps pour me reconstruire. Surtout là, le confinement, ben, ça aide pas.
Ouais, ça bloque la société pour plusieurs mois.
Ouais, et déjà que, parce qu'il faut savoir que l'AI, en ce moment, ils étudient une possibilité de rente AI pour moi.
D'accord. Ah, donc ils sont quand même en train de... C'est pas une sorte de backpédalage de faire ça, du coup?
Comment ça?
C'est-à-dire de t'avoir retiré des subsides à un moment et puis de te dire finalement on va peut-être te filer une rente.
Je comprends pas la logique derrière non plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux?
C'est c'est leur tuyautage, c'est la façon dont ils tournent, quoi. Ok.
Ouais, parce que pour expliquer aux Français qui nous écoutent, une rente en gros ce serait une somme d'argent qu'ils me verseraient chaque mois. Et qui serait plus élevé que ce que je recevais auparavant, je pense.
c'est incroyable que le système soit comme ça, mal foutu.
Et que pour le coup, je toucherais à vie.
Et que du coup, tu toucheras à vie en plus. Donc, ils sont en train de te dire, pour les études, non, mais à vie, peu importe ce que tu fais, oui et plus, potentiellement. Ce
voilà.
Qui est puzzling, comme on dit en anglais. Y a pas de bonne... Il n'y a pas de bonne chose à en dire, si ce n'est évidemment que c'est positif si jamais il te propose une rente. Mais,
tu vois, ce genre de démarche, on m'a dit, ça peut prendre jusqu'à 2 ans.
Ouais. Et c'est extrêmement culpabilisant pour la personne qui est dans le process.
Ouais.
Déjà parce qu'on lui dit, potentiellement, tu mérites pas ça, parce que tes études sont trop longues, et derrière on te dit, oui, mais votre situation, etc. Enfin. L'espèce de tentative de faire des petites économies dans un pays qui dégage un excédent au niveau fédéral chaque année, je trouve ça
sincèrement, le service social, ce qu'on touche, c'est une misère. C'est 780 francs par mois.
Comment tu fais pour un... Bon, après, je sais que je suis à Genève,
et
mais...
Ils prennent en charge ton loyer,
ah, voilà.
Et 490 francs de ton assurance.
J'allais... Ouais, donc...
Sachant que mon assurance est à 620 francs par mois.
J'allais dire un peu plus de la moitié. Moins les frais auxquels tu participes quand tu prends quelque chose, évidemment.
Mais bon, moi, tu vois, j'ai plein de frais médicaux et ce genre de trucs. Du coup, je suis à fond je galère à fond. Donc je t'avouerai que ça plus le confinement, c'est pas la meilleure période de ma vie. On approche bientôt d'une année assez pourrie complète.
Putain, ouais. Just a perfect day. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then need a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent C'est je pense que c'est de l'angoisse existentielle que tout le monde a en ce moment d'une manière ou d'une autre.
Alors explique-moi, parce que moi je t'avouerai que je suis pas encore beaucoup plus angoissée par le confinement que ça.
J'ai pas envie de t'angoisser plus du coup,
mais non, justement parle-moi, parce que j'ai envie de comprendre. Je vois tout le monde flipper et peut-être que c'est juste parce que c'est mon état naturel. Je t'avouerai que j'ai commencé à flipper quand j'ai réalisé qu'on savait pas réellement pour combien de temps on en avait.
Voilà. Alors, sautez 5 bonnes minutes de ce podcast si jamais vous n'avez pas envie de entendre parler de ça pour un petit moment. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un épidémiologiste, je suis un branleur qui regarde l'actualité. Prenez ce que je dis avec les précautions. Ça a été enregistré le 28 mars 2020. Ça ne s'applique pas à toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver dans le futur si jamais une situation pareille se reproduit, parce que chaque maladie est différente, et chaque maladie peut évoluer notamment dans la population de manière différente. Donc, passer tous ces disclaimers, la blague, c'est que on en a déjà en l'état probablement pour un mois et demi, deux mois de plus. Et là, je dis au niveau purement européen. Si on veut prendre les bonnes précautions, si tu veux être Donald Trump et vouloir libérer la population à partir de d'Easter, pourquoi pas, mais c'est pas la bonne approche. On sait que, tu regardes par exemple l'Italie maintenant, continue encore à renouveler, même si je crois qu'il commencerait à voir le bout du tunnel. Tu regardes par exemple la Chine qui a été hyper restrictive, parce que c'est la Chine, en gros, pour eux, ça a duré de janvier à peu près maintenant, et ils vont, fin janvier à maintenant, et ils vont commencer bientôt à ouvrir, y compris au centre du Wuhan, là où ça avait commencé et où c'était le plus violent. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ça prend du temps, surtout si on veut faire les choses proprement, surtout si on veut éviter de réinfecter la population trop vite, quoi, en rouvrant tout et en faisant se rencontrer les gens, en faisant que les gens baissent leur garde, etc. Le deuxième problème, c'est que, un petit peu comme un tremblement de terre, on suspecte que, comme d'autres maladies avant, il y a une deuxième vague. Et on suspecte aussi que cette deuxième vague arrive avant la mise au point d'un vaccin et la preuve que le vaccin fonctionne. Aujourd'hui, il y a déjà des vaccins qui sont en train d'être mis au point, qui sont même déjà en train de tester directement sur l'humain, parce qu'on est en mode « Oh là là, c'est vraiment la merde !» On est prêt à prendre ce risque. Mais
sauf sur les femmes.
Ils sont
toujours pas testés sur les femmes à cause du risque de qu'elles tombent enceintes.
D'accord, j'étais pas au courant de ça. Okay.
Les femmes ont toujours été exclues
des
essais cliniques.
Ce qui signifie le truc très fun de tu sais pas si ça marche bien ou pas bien sur 50% de l'humanité.
Exactement.
Bien joué le sexisme. Génial. Bande de cons. Donc, c'est en train d'être testé, mais on sait que pour vérifier en gros qu'il n'y ait pas d'effet désagréable, c'est-à-dire que ça met le patient dans une pire situation plutôt qu'une meilleure, il va nous falloir, depuis le moment où ils ont commencé à faire les tests, c'est-à-dire il y a plusieurs semaines maintenant, 14 mois avant qu'on sache si un vaccin est clairement efficace et pose pas de problème. Ce qui nous laisse le temps pour fastoche une deuxième vague, en gros, dans lequel on aura probablement une deuxième vague de confinement pour justement éviter que la majorité de la population soit infectée et que la majorité de la population, et que la majorité de la population tombe dans cette loterie merveilleuse de savoir si elle a la version grave ou pas de la maladie, etc., etc.
D'accord.
Et donc, c'est une situation santé, c'est une situation extrêmement paradoxale où il est vraisemblablement le cas que tu ne l'es pas, slash si t'as pas de symptômes, slash même s'il est possible que tu sois porteur sain aussi, ce qui est rigolo, slash que même si tu l'as, tu n'en meurs pas, surtout à notre âge, y compris, je dirais même s'il n'y a pas trop de soucis de santé, l'âge de nos parents, ça va encore. nos grands-parents, c'est une autre histoire.
Ma grand-mère est déjà morte, mon grand-père, pareil.
Mes
grands-parents
de...
paternels, pareil.
Je me fais beaucoup de soucis pour ma grand-mère qui est la dernière personne chez mes grands-parents qui est de ce monde. Et oui, c'est une source d'inquiétude, effectivement, assez grande.
J'imagine, ouais.
Mais comment dire, c'est ce paradoxe où à la fois, c'est un loto dans lequel tu ne choisis pas de participer. Et si tu gagnes, entre guillemets, c'est emmerdant, voire très emmerdant, voire fatal. Donc, c'est tout le paradoxe. Et ça demande beaucoup de patience, ça demande à se rassurer tant qu'on peut, et ça demande à être le plus diligent possible vis-à-vis des consignes qui nous permettent d'éviter de le choper, slash d'éviter de le transmettre. Et... les deux trucs prioritaires, c'est évidemment une bonne hygiène corporelle, précisément des mains, parce que c'est surtout les mains qui permettent de transmettre ce genre de trucs ensuite au visage et aux voies ORL habituelles. Et l'autre truc, c'est de voir le moins de monde possible, le moins longtemps possible. Voilà, moi j'ai lu 2-3 trucs, notamment d'épidémiologistes et d'experts de la santé alimentaire, par exemple, qui disent. Le plus grand risque, il n'est pas dans le fait d'aller dans le magasin, surtout en plus s'ils distribuent devant du produit antibactérien, enfin du hand sanitizer, une solution hydroalcoolique, c'est le terme que je cherchais. Oui, tu peux, si tu veux, nettoyer tout ce qui ressort du magasin et prendre tes précautions. Le risque le plus important dans ce framework, c'est si jamais tu croises quelqu'un qui te le transmet. Ça, c'est le risque. Autrement dit, c'est vraiment purement une question de connexion humaine. Et c'est pour ça qu'avait un énorme scandale quand des connards de Parisiens ont décidé de partir en province, dans le reste de la France, quoi. L'Élysée et le Matignon, donc le Premier ministre français, a dit bon les gars, lockdown, on bouge plus, on siffle la raclée.
Ouais.
Parce que ces gens-là ont, même s'ils étaient porteurs sains par exemple, potentiellement amené le truc aux gens qui sont partis visiter ou aux locaux, simplement en discutant avec 30 secondes. C'est très peu probable en 30 secondes, hein, c'est des temps d'exposition normalement un peu plus longs, il faut leur tousser dessus, il faut éternuer à proximité, ce genre de choses. Mais c'est été assez égoïste de leur part de foutre le camp parce qu'ils aggravent le problème.
C'est clair.
Et moi je sais, je suis confiné depuis 2 semaines maintenant. Je vis avec mes parents toujours et c'est un truc que j'aimerais beaucoup changer parce que j'ai envie de prendre mon envol tout simplement. Mais c'est le double truc de se retrouver restreint. Alors Dieu merci, on a de l'espace ici, on a un petit peu d'espace tranquille à la campagne, donc c'est positif de ce côté-là. C'est une situation bien moins pire à plein d'égards que malheureusement plein de monde doit vivre aujourd'hui en vivant par exemple en appartement, en ville, etc.
Je t'avouerais que moi j'aimerais bien vivre avec quelqu'un là. Pas dans mon studio, mais j'aimerais bien vivre avec quelqu'un parce que ne voir personne pendant tout ce temps, ça commence à faire un peu lourd.
Non, c'est clairement beaucoup, c'est clairement difficile. Et même quand tu vis avec plusieurs personnes, la monotonie d'être toujours au même endroit, si peu, tu vois, et toujours avec les mêmes personnes. J'aime beaucoup mes parents, c'est pas la question, ils m'aiment beaucoup aussi, mais c'est... Comment dire, t'as l'impression de vivre un jour sans fin, quoi. Tu te réveilles tous les jours, avec cette réalisation de « Oh merde, on est encore dans cette situation », quand t'as eu la chance de pas rêver à propos de ça. Quelle chance de rêver de trucs différents, putain. Quel bonheur de même d'avoir des cauchemars qui sont pas à propos de ça. Sérieusement, quoi.
C'est clair.
Enfin, je sais bien qu'il y a des cauchemars qui sont potentiellement plus horribles que ça, mais enfin, la plupart du temps, merde, c'est voilà. Et donc c'est ce jeu du yo-yo de un truc. Bon, le contexte est horrible de toute façon, hein, mais un truc qui te rassure un petit peu, puis 5 minutes plus tard, un truc qui t'inquiète de nouveau, etc., etc. Combien à ça le fait que je suis allergique à certains pollens qui sont en train de se déployer maintenant et niveau inquiétude, tu as un cocktail qui fait que la première semaine de vraiment où confinement, on sait que c'est la merde, etc. On voit le nombre de cas augmenter, on sait qu'ils testent pas tout le monde. Ils le disent qu'ils testent pas tout le monde. Il y a très peu de pays qui testent tout le monde, à la fois par choix et par moyen, mais. C'est la première semaine, je chialais spontanément plusieurs fois par jour, parfois. Enfin, c'était émotionnellement extrêmement difficile. J'ai un rapport à ma mortalité qui est pas très sain. J'ai particulièrement du mal à digérer cette possibilité-là. J'ai encore plus de mal à la digérer si on me dit que potentiellement, pour un an, je cours un risque, et mes proches, et les gens que j'aime, et les gens en général, courent un risque qui est encore plus élevé que d'habitude. Ceci étant... Encore une fois, à tout malheur, y compris à quel point il peut être horrible, vil, déprimant, catastrophique, à tout malheur de ce genre-là, ça révèle certaines choses dans la société. Premièrement, ça nous rappelle que des gens qui souffrent de maladies de ce genre-là et qui prennent des risques et qui risquent de calancher pour une raison ou pour une autre, ça existe aussi en temps entre guillemets normal. Que ce soit dans d'autres parties du monde ou même dans d'autres parties du monde, mais par exemple pour les plus pauvres, par exemple, si tu prends le cas des États-Unis pour les gens qui n'ont pas accès à une couverture santé, t'as plein de cas de figure comme ça. Et je pense que, enfin, j'espère en tout cas que ça rappellera un petit peu les priorités à chacun. Et de l'autre côté, ça montre à quel point beaucoup de dirigeants sont des gros connards. Là, je vais prendre un exemple. Le gouvernement français qui maintient les élections municipales, le premier tour, ils ont repoussé le deuxième un peu ad vitam d'ici à ce que ça se tasse, tu vois, mais qui ont maintenu le premier tour et qui ensuite se sont félicités que ça se serait bien passé, le niveau d'irresponsabilité crasse juste pour essayer de scorer des points ou de pas perdre des points au niveau politique, c'est une honte. La ministre de la Santé qui, parce que l'autre candidat à Paris pour le parti de son gouvernement a eu un truc que je souhaite à personne, évidemment, hein, c'était du revenge porn qui a été publié en plus dans un cadre de d'Oppo Research, enfin c'était à but politique. Visiblement téléguidé par tel ou tel, en tout cas il y avait une intention politique derrière. Que la ministre de la Santé ensuite le remplace à pied levé juste avant le début de la crise, alors qu'il savait très bien que c'était, je vais pas dire que ça allait être la situation telle quelle, mais en tout cas que la situation était extrêmement volatile et potentiellement très risquée, de switcher comme ça un ministre de la Santé dans cette situation là mais on vit où, quoi? Enfin, c'est incroyable de se dire que ce pays qui est à littéralement 30 cm de nous s'est comporté comme ça. Et c'est la même chose pour nous.
Je t'avouerais que je suis pas trop l'actualité. Ça, tu vois, si je suivais trop, ça m'angoisserait.
Ah non, mais c'est la preuve. Sincèrement, c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements énormes. Sur un truc aussi évident, les mecs, c'est une pandémie. L'OMS vient vous dit c'est une pandémie. On connaît les taux de mortalité, ils sont pas GG. On connaît les taux de transmission, ils sont pas GG. Ça pourrait être pire. Ouais, ok, c'est pas Ebola. Ouais, ok, c'est pas la peste. Bah encore heureux que c'est pas la peste, putain. Avec votre niveau de responsabilité, la peste, on serait dans la même situation qu'au Moyen-Âge. Enfin, il faut se calmer deux secondes. C'est incroyable. Si on avait un truc qui avait le même, avec notre niveau de salubrité qui est évidemment pas le même qu'à l'époque. Je fais pas des considérations, je mets pas tout à égalité, tu vois. Mais si on avait le même genre de truc, on disait on va faire comme Boris Johnson, on va décider qu'on va laisser tout le monde circuler à part ceux qui se sentent un peu malades, et puis on va développer une immunité de groupe. Sauf que visiblement, l'immunité de groupe, elle peut pas vraiment se développer avec cette saloperie. On peut se réinfecter. C'est quand même emmerdant. Donc, je fais pas partie des gens, et je vais terminer là-dessus, je fais pas partie des gens qui sont en full collapsologue, dans deux mois, on a plus d'eau potable, l'électricité va crever, etc. On n'en est pas là du tout. Parce qu'encore une fois, on fait pas face à Ebola, on fait pas face à une peste, on fait pas face à littéralement le pire du pire qu'on a pu voir encore pire. Mais on fait quand même face à un énorme problème, qui remet en question le modèle de société. Ça va donner du... Désolé, hein, mais ça va donner du grain à moudre, et ça me fait pas plaisir, aux connards qui vont dire « La démocratie, ouais, mais en même temps, en Chine, avec le régime autoritaire, ils ont géré le truc, ils ont envoyé les militaires, et tout le monde est resté chez soi. » Et c'est une question de principe, de dire non, effectivement, c'est pas la bonne approche, parce que t'as certaines démocraties qui ont également bien géré le coup, notamment dans des pays d'Asie qui ont simplement plus l'habitude et qui se préparent un peu mieux à ce genre de truc. Mais il va falloir une volonté politique santé pour notamment dépenser du pognon dans les filets de sécurité sociaux, dans l'aspect de santé, également dans le soutien aux petites entreprises et aux indépendants. Ça va main dans la main. Tu peux pas uniquement bail out les grandes entreprises du pays en disant oh les pauvres vous pouvez pas faire du commerce en ce moment etc, ou les restaurants etc, et en même temps dire ouais mais les gens qui travaillent, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'autant en compensation dans cette crise, est-ce qu'il faut vraiment avoir autant de livides en hôpital, et la réponse est putain oui parce que tu prévois pas pour ce que tu as, tu prévois pour ce que tu pourrais avoir, et ça c'est déjà frustrant en temps normal quand on dit « Ah, on va fermer tel hôpital en Suisse parce qu'en fait, oh, ils vont pouvoir aller à Genève, etc. » ou « Ils vont pouvoir aller à Zurich » ou ce genre de truc. Et ensuite, tu te rends compte de « Ah, merde, mais en fait, si on est dans le cas de figure où on a le plus besoin du système de santé, on l'a pas. »
Ouais.
C'est con quand même. Le moment où les gens, c'est pas uniquement « Je vais aux urgences parce que j'éternue un peu bizarrement », mais c'est littéralement « Il y a une pandémie et peut-être je suis très malade et peut-être je suis très contagieux. » T'as besoin d'un système avec des réservistes qui sont médecins, t'as besoin d'un système avec une grande rotation de pharmaciens, t'as besoin d'un système qui puisse automatiser un certain nombre de trucs, notamment sur la distribution de bouffe et de biens essentiels pour pouvoir limiter les contacts humains et éviter de faire ce qu'on est en train de faire maintenant avec les putains de livreurs Uber et Deliveroo qui sont en train de s'infecter simplement parce qu'ils font partie d'une branche qui est, je suis désolé, je suis parti en full politique, c'est génial, qui font partie d'une branche où ils ont pas le choix, ils sont considérés encore comme du business essentiel, et de l'autre côté les gens commandent à mort chez eux. Parce qu'ils imaginent que parce qu'ils font venir quelqu'un, c'est moins risqué pour eux de pas sortir le nez dehors, alors qu'ils ont un contact humain aussi. Donc ça revient au même, simplement t'as ce mec de Deliveroo qui va prendre plus de risques, qui en plus va être épuisé parce qu'il va faire quoi, il va bosser, pédaler, il va se démener dans tous les sens pendant toute la journée pour amener des trucs partout. Enfin, c'est fatigant. C'est vraiment ouais. Fatigant de voir ça au-delà de la peur qui est là et qui est vraiment là, hein. Mais c'est voilà, c'est relou.
Ouais. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
Quant aux cons qui se promènent dehors, allez vous faire mettre, c'est pas possible.
Je vais faire partie de ces cons qui se promènent dehors.
Non, si t'évites les gens, si tu vas dehors juste
j'évite
pour
toujours les gens.
Prendre l'air, non mais. Je sais, mais et moi aussi. Mais c'est pas la question. Je parle des gens. J'en ai vu très rarement de ma fenêtre, mais j'en ai surtout vu qui vont dans des parcs, qui vont dans des trucs, en bordure de lac, en bordure de mer, etc. Et qui sont bras dessus, bras dessus.
J'ai vu que des gens seuls quasiment.
Eh ben tant mieux.
À part deux groupes de mecs.
Ah bah. On brand, mais c'est non, voilà, tu vois encore des images de gens bras dessous, c'est plus possible. Alors t'en vois surtout aux États-Unis en ce moment, et ils sont bien partis pour très mal gérer la crise parce qu'ils ont un excellent chef d'État avec un excellent cabinet qui a une attitude très très saine et pas du tout électoraliste par rapport à tout ça. Hint, mais
ouais.
C'est ouais, bref. Désolé, mais vraiment, je dis pas ça pour gueuler sur les gens qui sortent, parce que dans certains cas, c'est indispensable de sortir. Je dis juste, sortir et rencontrer d'autres personnes et être un risque pour soi-même et pour les autres, ça par contre, c'est une immense connerie. Et je veux dire, si chez moi, on est dans une petite maison, on prend le temps nécessaire pour, à part quand on mange, vraiment s'éviter, c'est-à-dire rester dans différentes pièces déjà toute la journée, et puis quand on doit passer pour une raison ou pour une autre dans un espace commun, bah, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une seule personne par espace commun, on aère bien, enfin c'est le genre de recommandations qui circulent en ce moment.
Ouais.
c'est pas pour que les gens aillent ensuite boire des binous dehors dans un parc et faire les cons. C'est clair. Bref. Voilà.
Mais pour le moment, je t'avouerai que j'ai pas trop vu de personnes dehors.
Tant mieux. Bah, si les Neuchâtelois sont bien disciplinés, ça fait plaisir, écoute.
Après, je vais pas forcément dans des lieux hyper fréquentés, mais. Enfin, si un des lieux où je vais est normalement quand même pas mal fréquenté. Je t'écrirai ce soir pour te dire là où ça en est, si tu veux.
C'est pas les pires informations que j'ai pas envie de lire, donc ça me fait sentir, en plus c'est loin de moi. Non mais voilà. Et un autre truc qui est marrant par rapport à tout ça, c'est géographiquement comment ça va évoluer, parce qu'on sait par exemple qu'en Chine tu vas être en train de se calmer,
ouais.
Chez nous on en a encore pour un mois et demi, deux mois je pense. Aux États-Unis, je sais pas combien de temps. Sincèrement, voyager aux États-Unis va peut-être devenir un problème pour les 3-4 mois à venir. Plus encore le temps d'une deuxième vague, encore une fois. Donc voilà. J'ai largement dépassé les 5 minutes, désolé aux gens qui sont retombés quand même sur du pandémie talk.
C'est vrai que t'as largement dépassé les 5 minutes. Je peux te parler, enfin, un truc dont je voulais te parler, c'est en fait l'état actuel de mon père. Donc, pour ceux qui prendraient le podcast en cours, mon père a fait plusieurs attaques cérébrales. Il est actuellement dans un home, enfin, dans un foyer.
Dans un hospice, je crois que c'est le terme.
Un hospice, voilà, un hospice, c'est ça le terme. Son état se détériore de plus en plus en fait. Là, la dernière fois que je l'ai vu, en fait, il donne vraiment l'impression, tu sais, d'avoir totalement régressé en termes d'âge. T'as l'impression de parler à un petit enfant qui a aucune capacité d'attention. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et ça m'a fait réaliser à quel point c'est difficile à voir de voir une personne proche de soi vieillir et comme ça être d'assister à tout ça sans aucun pouvoir d'influence, quoi.
C'est... J'ai la chance de pas avoir vu ça pour l'instant de première main.
Tes parents sont jeunes, non?
Ils sont, oui, alors sans aller trop dans les détails, ils approchent tous les deux de la soixantaine, disons.
Ok, d'accord. Et puis ils sont en bonne santé, j'imagine.
Ils sont en plutôt bonne santé, donc voilà. Tout n'est forcément à cet âge-là, tout n'est pas parfait. Hein. La vie touche les gens de manière différente et inégale, bien sûr, mais globalement, oui, on va dire. C'est comment dire ça? Pour toi, en plus, c'est un cas à part, parce que j'imagine qu'il se retrouve assez isolé par la force des choses.
Ben oui.
Il est
à 5 minutes, mon frère habite à 5 minutes de l'hospice où mon père réside, du coup ouais. mon frère va le voir à peu près une fois par semaine.
D'accord.
Ils vont boire un café ensemble une ou deux fois par semaine, du coup il est pas si isolé que ça, mais c'est vrai qu'il est très diminué, il est en chaise roulante, il peut utiliser plus qu'un seul de ses bras. Quand on lui parle, t'as vraiment l'impression qu'il est pas vraiment là. C'est assez difficile.
Je me demande ensuite. Voilà,
ouais, le problème qu'on a, enfin le dernier problème qu'on a eu, c'est tu vois, c'est ces formulaires que tu dois remplir par rapport à tes volontés en cas de en cas de gros accident.
Ouais.
Par rapport juste les questions basiques, est-ce que tu veux que des mesures extrêmes soient prises, jusqu'à quel point tu veux qu'on te garde en vie, etc.
Ouais. Parce qu'il n'est plus trop en mesure lui-même de prendre ces choix-là, quoi.
Si, il l'est toujours.
Ah, si.
Et les gens du foyer veulent lui faire remplir le formulaire.
Ah, c'est à lui, d'accord, c'est pas à la famille, c'est à lui, ok. Ouais.
C'est à lui de le faire. Parce que là, du coup, le choix retombe sur les épaules de mon frère.
Mm.
Du coup, c'est assez lourd pour mon frère.
Donc attends, ils veulent le faire remplir à ton père, mais en vérité, il va s'adapter à ce que ton frère va lui dire, quoi.
Non, non. Mon frère a pas envie de cette responsabilité-là.
Ah d'accord, donc c'est pour ça qu'il demande à ton père.
Voilà.
Ah ok.
Non, non, et c'est aussi parce que mon père est toujours en mesure de le faire.
Ah ok, ok, ok. Ouais, c'est... Il y a des choses
mon
dans
père,
la vie où... Ouais, vas-y.
Mon père se comporte de manière très très égoïste et très très à côté de la plaque ces temps-ci. Il y a plusieurs exemples, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Mm.
Mais il se comporte de manière totalement déconnectée des choses. Il ne comprend pas les choses du tout. Mm. Par exemple, je ne lui ai pas du tout dit que j'avais quitté l'université, etc. Parce que ce n'est pas le genre d'information qu'il pourrait vraiment comprendre. Mm. Mais ouais, C'est comme ça, quoi.
C'est le genre de situation dans laquelle je mesure, en fait, la maturité que chacun peut avoir. Et devant ce genre de situation-là, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas quoi dire, si tu veux. Ça me semble tellement difficile que ça me laisse... Je sais, tu me laisses les espaces pour pouvoir réagir, dire quelque chose. Mais sincèrement, je sais pas trop quoi dire. Peut-être si je me retrouvais dans une situation analogue, mais je pense que je serais juste... Je serais juste affecté, touché, triste. Voilà quoi. Mais c'est après dans le détail, c'est très difficile à s'imaginer parce que c'est un monde complètement différent de voir quelqu'un d'aussi proche que t'as connu toute ta vie qui n'a plus le même rapport au monde, le même rapport aux émotions, le même rapport aux choses que tu peux l'avoir. Non, c'est pour moi, c'est extrêmement distant et du coup, même si je m'imagine les choses du mieux que je peux, c'est très difficile, si ce n'est de dire, voilà quoi, que c'est.
Ouais, ça craint.
c'est émotionnellement très lourd, quoi, que c'est difficile de conseiller quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, de refléter quoi que ce soit. Et je pense que c'est d'autant plus une preuve, encore une fois, d'à quel point tu te bats avec avec un quotidien qui est pas facile, quoi. Enfin,
en fait, je suis la partie plombante de ce podcast.
Je sais pas, peut-être qu'on est tous les deux plombants, mais à différentes manières. Je suis plombant mais vénère et juste le c'est une question de sort et c'est une question de, je sais pas. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas se cacher derrière une périphrase, on peut pas se cacher derrière une formule, on peut pas se cacher derrière qui vivra verra, ça évoluera peut-être. On sait la difficulté des choses et on devine que elles vont pas changer pour le mieux.
Ouais.
Et on est confronté à ça et on doit
malheureusement là pour le coup, on sait juste que ça va aller de pire en pire.
Et on doit créer son quotidien malgré ça, quoi. On doit vivre malgré et en rendant les choses le plus humain possible malgré cette quasi-certitude ou cette certitude, et c'est quelque chose, quand tu essaies de l'intellectualiser un petit peu, ça marche pas. Il vaut mieux, dans ce genre de cas, prendre les meilleurs choix possibles pour le bonheur de chacun, pour que chacun ait la meilleure vie possible, toute chose étant acquise, et derrière, réaliser qu'on fait le maximum, quand on fait le maximum, de ce qui peut être fait dans la mesure du possible, quoi. Enfin, c'est, je me répète beaucoup, mais quand on fait face à ce genre de choses dans la vie, on n'est que le maximum de nos possibilités à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Aussi triste que ça puisse être. Et ça rend la chose extrêmement difficile à accepter. Parce qu'on se rend compte à quel point on est limité. On vit dans cette espèce de, d'impression de toute puissance, de... je peux faire énormément de choses, je peux imaginer, je peux travailler sur énormément de choses, je peux... malgré toutes les emmerdes qui peuvent m'arriver, malgré des oppressions systémiques suivant qui je suis, est-ce que je fais face à du racisme, est-ce que je fais face à du sexisme, est-ce que je fais face à de l'antisémitisme, du voilà, malgré ça, on a chacun, je pense, l'idée qu'on a une marge de manœuvre dans sa vie, et quand on n'en a plus du tout, quand on voit que cette marge de manœuvre là s'effrite sur certaines choses, c'est assourdissant, quoi. Dixit, hein, un homme blanc qui a fait plusieurs années d'études et qui devrait finir avec un bon salaire, mais voilà, qui est de la bonne religion, enfin de la bonne confession officielle sur pour son pays d'ailleurs, enfin tout va bien, hein, l'orientation sexuelle que tout le monde voit et accepte comme, ouvrez les guillemets, normal, enfin tout le oulala, tout le jackpot, les amis, tout le jackpot.
Ça me rappelle la chanson Straight White Male de Bo Burnham.
Bo Burnham, je l'ai pas entendu, mais on peut peut-être l'écouter maintenant dans le podcast. Oh, regarde ce lancement musical. Walking around, I got no one to talk to. There's everyone, and then there's just me. If I could change, don't you think that I'd do it? God only knows why he cursed me to be a straight white man. I state my problems, other people roll their eyes. Three trips to the mall, zero khakis in my side. I've never been the victim of a random search for drugs. But you can't say my life is easy until you've walked a mile in my arms. Straight white man, I know the road looks tough ahead. The women want rights, the gays want kids. Can't you just leave us alone and also know to the things you asked for? Moi, je voulais savoir quand même, parce que ça fait, tu disais tout à l'heure, ça fait un an que tu...
Attends, on a toujours le segment titre potentiel.
Non, avant ça.
Ah ouais.
Avant ça, j'ai une vraie question à te poser. Oh, incroyable. Parce que tu disais tout à l'heure, je sais plus si t'es en off ou en on, mais que ça fait à peu près un an que c'est difficile.
Ouais, c'était en on.
Enfin, ça fait un an que c'est encore plus difficile que ça a pu l'être, disons.
Ouais.
Et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est que t'es quelqu'un qui aime beaucoup écrire, en général, c'est un de tes métiers, tu es journaliste série, tu as des talents d'autrice qui sont indiscutables,
c'est gentil.
Notamment en fanfiction Harry Potter, mais pas que.
Bâtard. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment occuper votre confinement et que vous voulez rire, allez écouter notre
lecture lyrique
de la fanfiction que Harry Potter que j'avais écrit quand j'avais 14-15 ans avec ma meilleure amie.
Malfoy has issues, guys. Mais non, là où je voulais en venir, c'était est-ce que ça a affecté d'une manière ou d'une autre cet aspect-là des choses, c'est-à-dire ta créativité, ton envie d'écrire
Ben, j'essaye d'écrire ces jours-ci, mais je t'avouerai que ça se passe plutôt mal. Donc, non. Mais ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'écrire. J'arrive plus trop.
Alors, je vais pas dire qu'est-ce qui est la cause de ça, mais comment est-ce que ça se manifeste, entre guillemets? Qu'est-ce qui te fait décrocher?
Je sais pas. Je me trouve juste mauvaise.
C'est ce qui est clairement une auto-appréciation. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, mon Dieu, ton style d'écriture a changé, etc. C'est ton appréciation toi-même des angles que tu trouves, la façon dont t'écris.
Ouais, je trouve que j'ai plus rien d'intéressant à raconter.
Parce que le reste de ta vie a un peu mangé, occupe un peu trop tes pensées.
Je pense, oui, d'une certaine manière. C'est cool, ma psy a été réquisitionnée par le gouvernement, du coup je vais plus la voir pendant longtemps, ça va m'être utile de parler de ce genre de choses.
C'est quelque chose que tu viens d'apprendre?
J'ai appris ça en début de semaine.
Ah putain.
Ouais, on était censé avoir le rendez-vous mardi par téléphone, mais lundi elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle était réquisitionnée par le gouvernement et que du coup j'allais avoir mes rendez-vous futurs avec un autre médecin que je connais pas.
Oh putain, ouais. Oui, donc ça va être... Oui, c'est la question de savoir si ça va aller avec ce nouveau médecin ou pas. Enfin,
ouais.
Oui. Non, c'est... Pour boucler la boucle, hein, cette pandémie, ce confinement, cette claustrophobie énorme, cette claustrophobie sur Terre, presque, quand on y pense. En termes de travail, au départ, elle m'a très clairement poussé à en faire le moins possible et à trouver des échappatoires. Notamment, je pense que tu l'as vu sur Twitter, Animal Crossing, qui est sorti sur Switch, a été un...
Ouais, t'as
une
de la
valve
chance.
Pour énormément de monde.
J'aimerais tellement avoir une Switch à Animal Crossing en ce moment.
Sincèrement, tu vois, je trouverais bien je ferais bien une collecte de pognon avec quelques amis pour t'en envoyer une, mais j'ai pas envie de prendre le risque que quelqu'un, tu vois, t'infecte ou s'infecte ou whatever dans le process de te l'amener. Mais
ouais.
On en reparle dès que ça ira mieux.
C'est vrai que maintenant que je suis au service social, j'ai plein de temps libre pour, jouer à Animal Crossing.
Mais voilà, une carrière de let's playeuse te tend les bras. C'est pas du tout un endroit toxique, Twitch. Hein? Non, ok. Getting to know you. Une conversation et zéro fil rouge.
Was a grayish shade of blue. Spirits desire was, they did admire the evening that we only thought we knew. The desert's lonely nightfall disappears. The raven who flies through the desert skies is wiser than you or me. The birds have a peace, the stillness of sleep, and the desert raven, he has poetry. There's a raven, he has poetry.
c'est un contexte un peu bummer, hein. Faut pas avoir honte que ce soit difficile en ce moment. Enfin, mon Dieu, voilà, c'est... Bon, je pense pas qu'on puisse nous prendre à défaut là-dessus, quoi. Déjà, on peut vraiment pas nous prendre en défaut par excès de malheur ou de tristesse sur un épisode comme ça, ou de caractère un peu renfermé. C'est et le podcast et la situation qui veut ça. Hein.
Ouais.
Il faut vraiment pas que tu t'en veuilles. Moi, au contraire, enfin, je trouve que t'as été cash et poignante sur énormément de trucs. Et ce podcast n'est pas un podcast comme un autre. Je pense que les auditeurs l'ont bien compris, mais ce podcast, c'est plus humain qu'un show. C'est pour ça qu'on déconnait tout à l'heure sur le fait d'avoir, une fois en 4 ans, lancé une répose musicale, quoi. c'est vrai. Donc bon. Voilà, quoi. Bon. Titre potentiel, hein.
Segment titre potentiel, donc, pour lequel je n'ai toujours pas trouvé de vrai jingle. J'en ai noté plein cette fois.
T'en as noté plein? Alors j'en ai deux, je les épuise maintenant. Du Pandemic Talk et J'ai dépassé les 5 minutes.
Ok, j'ai dépassé les 5 minutes, je l'avais noté aussi, donc je le redirai pas. Alors j'ai Tu fais pas de Skype et Rose, de manière complètement dilettante. Bien joué le sexisme. Clairement efficace et pose pas de problème. Beaucoup de patience.
Ah.
Putain de connexion humaine.
Je note.
La monotonie.
Ah.
Déprimant, vil, catastrophique. Le pire du pire qu'on a pu voir, voire encore pire.
voir encore pire. Ah, il est bien celui-là.
Quand je le notais, j'ai failli rire quand je le notais. C'est vraiment fatigant.
Ah non, ça c'est applicable à tous les épisodes, ça.
On brand de manière différente et inégale. C'est assez difficile. Je sais pas trop quoi dire. Je suis la partie plombante de ce podcast. Le maximum de nos possibilités à ce moment-là.
Ah.
Assourdissant. Je me trouve juste mauvaise. Je compte mes heures.
Ok. Je propose une shortlist composée d'uniquement celles que t'as proposées. C'est-à-dire la monotonie. Le pire du pire de ce qu'on a pu voir, voire encore pire.
Non, le titre, c'est le pire du pire qu'on a pu voir.
Qu'on a pu voir encore pire. Ouais. Et donc le deuxième voir avec un E. Le maximum de nos possibilités à ce moment-là est vraiment sympa et assourdissant.
Si le pire du pire qu'on a pu voir encore pire est pas trop long, je pense que je...
C'est jamais
je
trop pense... long.
C'est... Ok, si c'est pas trop long, alors celui-ci.
Ding, 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 ding. Eh bien, on la écoute.
Je pense que, vu la réaction qu'il a provoquée, c'est le meilleur.
Bien. Ouais, non, effectivement, et encore une fois, il est bien, il colle bien. Il colle bien. Ok. Eh ben, écoute. Est-ce que tu me laisses choisir les pauses musicales pour celui-là? À part Bob Burnham, vu que j'avais fait le précédent. Vu que t'avais fait le précédent, pardon.
Attends. Quoi?
Est-ce que je peux choisir la musique pour celui-là? À part Bob Burnham, que je vais mettre quand même.
Tout à fait.
Cool. Plus des morceaux à moi. Ok.
Pas de
soucis. Ok, eh ben écoute, on va pouvoir arrêter l'enregistrement si
d'accord.
Tu l'as sous le coude. On va cliquer dessus dans 3, 2,
2
1.
1, go.
Radio Kawa.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, où on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux, et c'est sur Radio Kawa.